j'allais dire, c'est tout un système, en fait. Benjamin, il a raison, parce que voilà, en Chine, que ce soit nous, le premier sport en Russie, c'est la gère, donc tout le système est fait pour la réussite. Les filles, elles font pas presque d'études, elles font que ça de leur vie, elles font 10 heures par jour d'entraînement, et elles passent par la santé, partout, pour pouvoir réussir. Donc c'est vraiment tout un système qui est différent, qu'on ne trouve pas en France. En fait, on a un enchaînement sur chaque engin, de 1 minute 30 sur une musique. Et puis, on a droit à 2 musiques à parole maintenant, donc c'est super cool. Ça permet de varier un petit peu. Il faut savoir que dans la GR, la question de la morphologie, c'est primordial. Si tu n'as pas la morphologie sur le tapis, si tu n'es pas mince, tu n'auras jamais ta note. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, tous les entraîneurs, c'est pour ça qu'ils nous demandent d'être minces, parce que le schéma de la meilleure gymnaste qui est en Russie, vu que c'est les pays de l'Est qui dirigent, tu dois être mince en GR pour réussir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce schéma-là. Et en y réfléchissant un peu, c'est pour ça que j'ai parlé avec le préparateur physique. Il m'a dit, mais quand j'ai commencé à faire de la préparation physique, tu prends un peu de muscle. Donc, tu es un peu moins fine, mais tu as plus de muscle. Mais c'est ce qui va te permettre de sauter plus haut.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Ksenia Mustafaeva. Bonjour Ksenia.
Bonjour.
Merci de prendre ce temps Ksenia. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Alors donc je m'appelle Ksenia Mustafaeva, j'ai 24 ans, bientôt 25 dans quelques semaines, dans deux semaines exactement. Ouais. Voilà, je fais de la gymnastique rythmique depuis l'âge de 4 ans maintenant. Je suis née en Biélorussie à la base et j'ai commencé la gymnastique rythmique à 4 ans là-bas. Ma maman elle faisait quand elle était jeune et on est passé en France à l'âge de 6 ans, quand j'avais 6 ans.
Ouais.
Donc voilà, et en fait ma maman elle a continué à m'entraîner quand on est passé en France. Donc depuis je m'entraîne avec elle, on s'entraîne ensemble. Okay. On a atterri à Bordeaux à la base, on a resté quelques années, une ou deux années. Et après, on est allé à Bourges. Donc, j'ai passé 10 ans à Bourges. Et après, on a basculé à l'INSEP à Paris. Donc là, ça fait depuis 2010 qu'on est à l'INSEP. Donc voilà.
Et donc, vous avez suivi finalement une passion que tu as depuis que tu es toute petite? Ou est-ce que c'est ta maman qui l'avait déjà, cette passion?
C'est plus ma maman, parce qu'il faut savoir que dans les pays de l'Est, la gymnastique rythmique, c'est le premier sport pour les femmes, pour les filles. Et donc voilà, elle m'a mis direct là-dedans. Elle en a fait un peu quand elle était jeune. Du coup, moi, j'ai rien demandé. Elle m'a mis dedans et j'ai continué à m'entraîner. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des résultats et ça m'a plu un peu plus tard, pas dès le début.
Parce que ta maman aussi était à un haut niveau, ou est-ce que simplement sa passion, elle te l'a transmise et du coup, toi, tu t'es décidé à un haut niveau?
Pas du tout, elle en a fait quand elle était jeune, après elle a arrêté pour ses études, donc elle n'en a pas fait à très haut niveau, et surtout quand c'était l'URSS, c'était une fille sur tout l'URSS, donc c'était vraiment très très dur, donc voilà, elle a arrêté assez tôt, et puis elle a continué avec moi, quoi. Après elle a fait un diplôme d'entraîneur, de coach sportif, elle a entraîné dans des écoles maternelles, tout ça, et après elle a fait l'équivalence en France, donc elle a pu m'entraîner et d'autres filles avec moi, quoi.
C'est génial. Quand tu dis que tu es arrivé en 2010, c'est ça, tu passes à l'INSEP. En 2010, si je ne me trompe pas, tu devais avoir 15 ans, quelque chose comme ça.
C'est ça. C'est ça.
Donc, jusqu'à tes 15 ans, tu faisais déjà de la compétition ou pas encore?
Oui, en fait, j'ai commencé du coup à Bourges et j'ai commencé dans une salle de gymnastique artistique. Il n'y avait pas du tout de moyens, mais il n'y a pas du tout de conditions de gymnastique rythmique. Donc, c'était un tapis mou, enfin, rien à voir avec la GR. Et du coup, j'ai commencé avec des petites compétitions, régions, départements, zones, des choses comme ça. Et il faut savoir que j'avais pas la nationalité dès le début, donc j'ai dû attendre 10 ans avant de l'avoir. Donc j'ai eu qu'en 2012, quoi. Okay. J'ai eu en 2012, donc et jusqu'à là, je faisais des compétitions, des petits tournois pour mon club. J'avais pas le droit de faire pour la France, même si j'étais en équipe de France. Et voilà, pour les championnats de France, j'étais tout le temps à côté du podium, même quand j'étais première. Donc ça, c'était un peu frustrant. Et voilà, quand j'ai pu l'avoir, donc après, là, j'ai pu faire le championnat d'Europe, du monde. Et ma première compète, d'ailleurs, c'était les test events, c'était le repêchage pour les Jeux de Londres. Et du coup, j'avais l'âge pour le faire parce qu'il pouvait y avoir un deuxième quota. Et du coup, c'était ma première compète. J'étais toute petite, j'étais choquée, quoi. J'étais vraiment trop stressée, j'ai fait n'importe quoi, mais bon, ça m'a mis dans le bain direct.
C'est génial. Ce stress-là, comment tu le définis? Est-ce que tu sais ce que, est-ce que c'est un stress de pas réussir ou est-ce que c'est un stress de, en fait, c'est une compétition où on me regarde et donc il faut que je fasse de mon mieux?
Bah, à ce moment-là, c'était plus la pression, dans le sens où même ma mère elle me disait c'est bon, tu peux avoir la qualif. Enfin, c'était alors que c'était ma première compète. Donc au jour d'aujourd'hui, je me dis c'était impossible. Déjà, fallait se faire un nom dans notre sport, tout ça. Et on m'a mis tellement la pression en me disant oui, si tu fais un bon truc, c'est bon, t'es qualifié. Alors que c'était pas du tout ça. Donc je me suis mis une pression dingue et ma mère aussi était stressée comme je sais pas quoi. Donc voilà, c'était vraiment un tout et c'était au final voilà de pas réussir qui était plus stressant qu'autre chose. C'était pas le fait d'être regardé, même si voilà l'atmosphère c'était très impressionnant. Il y avait les juges, c'était une grande salle énorme par rapport à ce que je vivais d'habitude, c'était rien quoi. Et du coup là c'était vraiment impressionnant et voilà on m'a mis trop la pression. Et au final je voulais faire bien mais j'ai fait n'importe quoi. Donc c'était complètement l'inverse.
Attends, si tu n'arrives pas à faire des compétitions avant 2012, tu n'as pas encore la nationalité, en 2010, tu intègres l'INSEP sans être encore française.
C'est ça, plus ou moins.
Comment?
Ah, je crois que c'est ça, oui, c'est ça.
Et comment ils te repèrent, du coup? Comment ils sont faits pour te repérer?
Du coup, c'était plus sur... du coup, j'avais fait les compétitions régionales, tout ça, les zones, et c'est de là, en fait, je finissais presque tout le temps première, sans avoir la grosse tête, hein, mais c'était surtout ça. Et du coup, en France, toujours, j'étais première, mais j'étais à côté du podium. C'est comme ça qu'on m'a repérée. J'étais un peu dans le circuit depuis longtemps. Et au final, voilà, quand j'ai réussi à avoir la nationalité, j'étais un peu celle qui était un peu devant tout le monde et ça s'est fait naturellement. Donc en Indy, voilà, j'étais un peu la meilleure. Et du coup, ils m'ont mis à l'INSEP. Avec ma mère, vu que c'était elle qui m'entraînait. Donc ça s'est pas posé la question.
Ah oui. Est-ce que tu penses, alors je c'est une petite blague aussi, hein, mais est-ce que tu penses que les gènes, comme tu dis, des pays de l'Est, sont peut-être plus aptes à ce type de sport, tu vois? Ils ont peut-être plus, comme tu vas avoir, des coureurs, tu vois, souvent, qui sont peut-être, majoritairement, je pense, plutôt d'origine noire, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de gène là-dedans qui te fait en sorte que ton corps est capable de gérer ce type de tension quand tu en fais?
Je pense pas forcément que ce soit les gènes, parce que déjà au niveau physique j'étais pas du tout pour la GR, enfin j'étais pas du tout apte à faire de la GR, j'étais pas du tout souple alors qu'il faut être super souple, enfin voilà, j'ai dû tirer dans tous les sens mes grands écarts, m'assouplir de dingue pour pouvoir faire ce sport, donc déjà physiquement j'étais pas du tout faite pour faire ça. Et après je pense que c'est au-delà des gènes, c'est surtout la culture qui fait que j'étais apte à faire ce sport. Parce que voilà, ce sport il demande énormément de sacrifices. On s'entraîne 6 à 8 heures par jour. Et puis ma mère elle m'entraînait à la façon russe, c'est pas du tout comme la façon française où on prend du plaisir, on essaie voilà de prendre un max de plaisir, de faire pour soi quoi. Donc là c'était vraiment un travail, réussir, objectif, médaille, c'était surtout ça. Et ma mère elle m'a conditionnée dans cette optique là quoi. Donc c'est plus mon éducation qui a fait que j'ai pu réussir. Plutôt que mes gènes, je pense. Mais peut-être que pour certains...
Non, ça joue beaucoup. C'est pour ça que je te disais que c'était une petite blague. J'ai pris des petites guillemets, des pincettes au début quand je te le disais. Non, je te dis ça parce qu'effectivement, pour ceux qui nous écoutent, on a été mis en relation par Benjamin Auffray. Et Benjamin, du coup, qui fait du plongeon à haut niveau, eh bien, il me disait que finalement, il y a un vrai problème numéro un qui est clairement l'infrastructure qui manque en France. Et il disait aussi que finalement, il y avait quand même ce rythme, comme tu dis, hein, d'éducation, que effectivement, ses concurrents directs sont plutôt d'origine chinoise. C'est majoritairement les champions chinois, et donc ces personnes-là sont pas du tout formées de la même façon qu'en France, parce qu'on prend pas les pincettes qu'on prend peut-être avec les athlètes français de faire quelques heures par jour avec les moyens, je pense, qui suivent, mais dans le sens, il y a une part de ça. Ok,
c'est sûr. J'allais dire, c'est tout un système en fait. Benjamin, il a raison, parce que voilà, en Chine, que ce soit le premier sport en Russie, c'est la GR, donc tout le système est fait pour la réussite. Les filles, elles font pas presque d'études. Elles font que ça de leur vie. Elles font 10 heures par jour d'entraînement et elles passent par la santé, partout, pour pouvoir réussir. Donc, c'est vraiment tout un système qui est différent, qu'on ne trouve pas en France. Et voilà, donc c'est tout très différent.
Et alors, si tu fais ta première compétition en 2012, est-ce que ça en est devenu ton métier aujourd'hui ou est-ce que du coup, tu fais autre chose à côté?
On peut dire que c'est mon métier sans être mon métier, parce que je fais majoritairement ça. Donc je fais de mes journées, c'est comme un métier. Je fais 35 heures par semaine d'entraînement, donc c'est un métier, mais sauf que je suis pas rémunérée pour, donc c'est pas vraiment un métier. Donc voilà, c'est difficile financièrement, parce que la fédération, j'ai une aide par mon club, mais c'est rien par rapport à un salaire. Donc pour l'instant, je m'en sors avec l'aide de mes parents aussi, qui m'aident un petit peu, qui prennent par exemple les frais de Justo, tout ça qui coûte très très cher. Donc voilà, on arrive à s'en sortir, mais ça n'a rien à voir avec un métier. Et après, je fais une école de journalisme à côté. J'ai commencé ma première année. Il me reste 2 ans à faire. Et puis pour l'instant, comme je ne peux pas faire le journalisme, je me suis mis en stand-by. Du coup, je fais un diplôme d'entraîneur. Donc pour l'instant, je passe mon diplôme d'entraîneur en attendant. Parce que je n'ai pas très envie d'entraîner à 100%, mais au moins un petit peu à côté pour garder un pied dans la GR. Mais j'ai envie de faire autre chose à côté. Comme journaliste.
C'est vraiment pas simple. Et tu saurais nous dire pourquoi est-ce que justement t'as peut-être pas ces financements. Est-ce que c'est parce qu'il y a pas les moyens dans l'institution française peut-être de te payer pour ça, ou est-ce que c'est parce que ils ne font que les X niveaux et tu n'y es pas. Je sais pas, qu'est-ce qui fait que du coup tu perçois pas par exemple ce type d'indemnisation.
Parce que c'est encore une fois, c'est un système qui fait que par exemple déjà on est un sport pas médiatisé du tout. Donc, pour être un sport médiatisé, il faut avoir des médailles. Dans notre sport, c'est un peu politique aussi. Donc, pour avoir des médailles, c'est très dur. Même si on a un beau niveau, voilà, il y a toujours les Russes qui sont souvent devant. Maintenant, c'est un peu changé, mais c'est majoritairement ça. Donc, par exemple, les fédérations, elles préfèrent miser sur, imaginons, la gymnastique artistique où il y a plus de médailles, donc plus de visibilité du sport. Où il y a plus de sponsors, du coup, qui s'intéressent à la gymnastique artistique plutôt qu'à la GR. Donc nous, on est toujours derrière, il n'y a pas de lobbying qui est fait aussi pour mettre notre sport en avant. Donc c'est voilà tout un système qui fait qu'on n'est pas médiatisé énormément. Au jeu, on ne voit que au jeu et après il n'y a plus rien. Par exemple, quand j'ai fait les jeux, il y avait toute l'année où il y avait plein de médias et après il n'y avait plus rien. Enfin l'année d'après, zéro. Donc, c'est surtout ça.
Tiens, on parlait justement à l'instant de ton parcours. On peut le reprendre peut-être en détail. Donc, tu commences tes compétitions en 2012. Est-ce que tu peux nous refaire du coup année par année ce que tu as pu faire pour nous le présenter?
Année par année.
Donc, les 2012, les grands chapitres, quoi.
Ouais. Donc, toujours chaque année, il y a les Europe, les mondes, championnat du monde, championnat d'Europe, championnat du monde. Donc, les tests avant en 2012. Après 2013, il y avait Europe Monde. Après, il y a des grands prix, des coupes du monde. Les coupes du monde, c'est beaucoup plus important pour nous que les grands prix. Donc c'est en plus bas les grands prix. Donc les coupes du monde, il y en a 6-8 par année à peu près. Il y en avait. Maintenant, il y en a que 4. Par exemple, cette année, il y en avait que 4. Et les mondes se finissent en septembre. Donc c'est la fin de l'année. Et 2015, c'était les Jeux européens aussi. En 2015, les premiers Jeux européens. D'ailleurs, j'étais ambassadrice, donc c'était trop cool. Jeux européens où j'ai pas fait de finale, mais j'ai fait 7e, je crois, fallait rentrer dans les 6. Donc là, j'ai fait une bonne compète. Et j'ai eu ma qualif en 2015 pour les Jeux, du coup, au championnat du monde, j'ai eu ma qualif pour les Jeux. Ça, c'était dingue. Et du coup, en 2016, il y avait les Jeux olympiques de Rio, avec des Coupes du monde avant, mais l'objectif final, c'était Rio. Ensuite, je comptais m'arrêter, mais au final, je me suis dit, bon, comme j'avais 20, 21 ans à l'époque, je me suis dit, je peux encore refaire une Olympiade, surtout qu'on m'a dit, oui, t'as encore l'âge de faire une Olympiade. Je me suis dit, et comme c'était tellement énorme, les Jeux, je me suis dit, ouais, vas-y, il faut que je refasse. C'est tellement dingue que ouais, j'ai envie de les refaire. Je me suis relancée en 2017 sur une Olympiade, je me suis blessée au genou, je me suis fait opérer. Donc là, c'était une année off. Et du coup, le ménisque, on m'a annoncé 3 mois, et je suis revenue au bout de 8-9 mois, quoi. Donc l'année 2018, pareil, c'était off, et j'ai réussi à revenir pour les mondes de 2018. Genre, j'ai fait qu'une compète avant et je suis allée au monde direct. J'ai pas mal réussi, et donc du coup 2019, il y avait la qualif pour Tokyo que j'ai un peu foiré parce que c'était très dur psychologiquement. J'étais vraiment épuisée et j'avais c'est déjà une compète très très longue. Pour la qualif au jeu, c'est 5 jours et la qualif, elle se joue le dernier jour, donc t'es vraiment rincée. Et psychologiquement, j'étais blessée de partout et voilà, c'était dur. J'ai fait 3 engins, nickel, franchement, très bien. Et le dernier engin, j'ai fait nickel et à la fin, j'ai fait 2 chutes. Et du coup, je suis sortie du truc. Donc voilà, c'était vraiment dur à encaisser. Surtout que j'avais pas mal bossé, mais c'est pas passé quoi. Donc on essaie de voir pourquoi ça a pas marché pour essayer de rechercher cette qualif qui normalement du coup était en avril 2020 là. Avec le confinement, on ne sait pas quand ça va être, mais on va essayer de repartir pour une année et pour finir en beauté. Quoi. On va voir comment ça se passe.
Donc, tu ne participeras pas au prochain jeu, c'est ça que je comprends?
Si, il y a encore une possibilité de faire la qualif. Il y a des repêchages en fait, sur les Coupes du Monde qui étaient en avril 2020. Là.
Ouais.
Mais comme avec le confinement, ça n'a pas pu être fait, du coup, ça va être décalé, on ne sait pas quand. Donc, j'ai la possibilité de faire ça. Après, voilà, voir si mon corps va tenir ou pas. Mais j'ai encore la possibilité de me qualifier.
Ah bah, on te le souhaite. On te le souhaite vraiment.
C'est gentil.
Tu as été du coup plusieurs fois championne de France. Qu'est-ce que ça fait d'être championne? Comment tu te sens quand tu montes sur le podium tout en haut?
C'est vrai que c'est un peu anecdotique parce que, quand je montais sur le podium, pour moi, c'était un peu normal. C'est-à-dire que je travaillais pour être première, quoi. Donc, quand j'y arrivais, c'était même pas une réussite. C'était normal. Si j'étais pas première, ça aurait été un échec. Et ma mère, elle m'a un peu formaté à ça. C'est-à-dire que, voilà, tu travailles pour être première, rien d'autre. Et c'est vrai que mon beau-père, un jour, il m'a dit, mais c'est trop bizarre, vous venez des France, on fait rien, enfin, il y a aucune célébration, il y a rien. Je dis, bah ouais, mais pour nous, c'est comme ça, quoi. Nous, on revient, c'est normal, on continue de travailler. Et c'est vrai que ça m'a un peu marqué parce qu'il m'a dit, bah, c'est comme quand on fait le champagne, je sais pas, t'as été première. Et du coup, voilà, c'était un peu marrant. Mais donc voilà, ça se fait toujours plaisir d'être première parce que voilà, je garde mon titre et, mais voilà, c'était un peu un objectif. Et ouais, voilà, c'était surtout ça.
Et comment du coup ça se passe une compète peut-être que moi je connais pas très bien, je te cache pas que je ne regarde pas très souvent, même si je suis assez fasciné par ce que ça rend au final, donc je regarde souvent les replays, pas forcément le live, mais du coup comment ça se passe une compétition sur de la GA justement, comment ça se déroule?
Alors il y en a, ça dépend, il y a plusieurs formats sur chaque compète. Donc par exemple, si on prend les grands prix qui est tout en bas, le grand prix c'est sur 2 jours. Donc on s'échauffe le vendredi, on a un passage plateau. Samedi, on a les 4 engins directs. Donc il y a cerceau, ballon, masse sur ruban. On fait les 4 d'un coup pour concours général et le lendemain on a les finales. Donc si on est qualifié sur 2 engins, on fait le lendemain que 2 engins, etc. Si on est qualifié pour les 4, on fait les 4 le lendemain. Les coupes du monde c'est différent. Les coupes du monde c'est sur 3 jours. Donc t'as 2 engins, cerceau ballon le premier jour, masse sur ruban le deuxième jour, concours général, et le dimanche, toujours les finales. Donc pareil, selon où tu rentres. Et par contre, comme les championnats du monde, qualificatifs, c'est sur 5 jours. Donc là, c'est horrible. Tu fais un engin le matin, lundi. Mardi, tu fais un engin, finale le soir sur 2 engins. Mercredi, massue. Vendredi, c'est quoi, ruban. Et vendredi soir, finale sur 2 engins. Et samedi, tu fais les 4 engins pour ta qualif. Tu refais tout de zéro, tout est remis à zéro et tu refais les 4 engins. Ah, ouais. C'est une semaine dure.
Ah, ouais,
et en plus, t'as les entraînements entre, quoi. Les entraînements entre, c'est horrible.
C'est intense, hein. C'est...
Ouais.
Ça a l'air vachement intense. Quand tu dis 4 engins, tu peux nous détailler, du coup, quand tu dis ballon, cerceau, ruban et massue, ça représente quoi comme épreuve?
Du coup, c'est en fait, on a un enchaînement sur chaque engin de 1 minute 30 sur une musique. Donc, chaque musique, on a un engin. Et puis, on a droit à 2 musiques à parole maintenant. Donc, c'est super cool. Ça permet de varier un petit peu. Et voilà, donc on a ballon, cerceau, masse sur ruban. Et donc, on s'échauffe un peu avant, on sort sur le prat, on fait notre enchaînement devant les juges. On revient, on s'échauffe à l'autre engin et c'est comme ça, on enchaîne.
Ok. Et alors, qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu joues finalement ta place sur quelques minutes à peine? Finalement, tu joues ta place sur 1 minute 30, tu m'as dit, fois 4?
Ouais, c'est ça, 1 minute 30 fois 4. Après, ce qui est bien dans le concours général, c'est que tu vois, si tu fais une chute, ben, ça, c'est pas, comment dire, tu peux te rattraper sur les autres engins, quoi. Tu vois, tout le monde peut faire des chutes, c'est tellement aléatoire que t'essaies de te mettre en condition et puis tu fais une chute, t'essaies de te rattraper l'engin d'après. Après, sur les finales, c'est très frustrant parce que c'est un one shot. Donc, tu t'échauffes, tu sors, bah, si tu fais une chute, c'est fini, tu finis 8e. Donc, ouais, j'essaie de travailler. C'est surtout le stress aussi à travailler parce que plus tu stresses, plus tu risques de faire des erreurs. Et voilà, j'essaie de me mettre déjà en condition à l'entraînement pour essayer de faire un peu comme en compète, pour essayer, voilà, d'être dans les mêmes conditions et de sortir en compète et d'essayer de faire la même chose, quoi. Donc, c'est vraiment un travail en amont à faire. Donc, voilà.
Comment tu travailles d'ailleurs ça, ce stress, tu dis, ce mental, comment tu travailles?
Bah, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais vraiment beaucoup stressée, j'avais pas mal de pression, du coup, ça m'arrivait souvent de faire des contre-perfs, et j'ai travaillé beaucoup avec une préparatrice mentale, qui m'a, voilà, essayé de faire travailler sur le stress, la gestion du stress, comment se concentrer, des choses comme ça. Donc voilà, c'était tout un travail sur de longues années, qui m'a permis, voilà, je l'ai fait en amont pour la qualif à Rio, qui a très bien marché, après j'ai arrêté parce que j'en avais plus trop besoin. Et après, j'ai dû me remettre dedans parce que j'avais perdu certaines notions que je devais récupérer, quoi. Donc voilà. Et après, il y avait aussi le travail avec ma maman qui était très difficile parce que quand t'as ta maman qui est entraîneur, c'est vraiment dur. Donc voilà, essayer de faire la part des choses pour essayer d'avoir une perf, c'est bien. Parce que sinon, tout se mélange et c'est presque impossible.
Bah, je comprends. Le relationnel avec ta maman, tu penses qu'il a évolué là depuis que vous avez commencé à vous entraîner ensemble? Est-ce que c'est plus fusionnel ou est-ce que c'est plus autoritaire? Comment tu le...
Ça a beaucoup évolué. quand j'étais jeune, c'était beaucoup autoritaire, c'est-à-dire que ma maman, elle dirigeait un peu tout. Donc, c'est-à-dire que voilà, moi, je faisais mes entraînements, elle me disait ce que je devais faire. Et au bout d'un moment, c'est un peu coincé parce que j'ai commencé à grandir et je pouvais plus être, on pouvait plus avoir autant d'autorité sur moi, quoi. C'était presque invivable. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir une préparatrice mentale qui a commencé à me dire comment je devais faire pour communiquer parce qu'on communique pas du tout. Quand on est russe, voilà, c'est toi, tu fais ça et c'est tout, quoi. Donc, on communiquait pas du tout et j'ai dû un peu apprendre à ma mère à communiquer pour lui dire mon ressenti aussi, comment je voyais les choses. Et au final, on a essayé de trouver un équilibre parce que sinon, ça serait arrêté parce que sinon, moi, j'aurais arrêté ma carrière parce que ça a été vraiment très difficile. Et voilà, pour essayer de lui faire comprendre ce que moi, j'avais besoin et comment moi, je voyais les choses aussi. C'était ça qui était très important. Et elle l'a compris au fur et à mesure, même si ça coince encore un peu de temps en temps, mais voilà, on a un peu rentré sur la même longueur d'onde.
Ouais, mais ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple d'avoir sa maman, du coup, qui a deux rôles finalement, qui a le rôle de maman et puis le rôle d'entraîneuse en même temps. T'as fait des compétitions jusqu'à finalement un très haut niveau. Qu'est-ce que ça te donne comme impression du coup aujourd'hui quand tu termines ça? Est-ce que t'as l'impression qu'il va te manquer quelque chose après? Est-ce que t'as la sensation que si t'arrêtes ça, il va te manquer une part de toi, ou est-ce que la compétition fait partie de toi intégralement?
Ouais, je pense que ça va me manquer, mais en fait c'est pareil, c'est en demi-teinte, c'est-à-dire que je sais que ma carrière va bientôt être finie et c'est difficile parce que tu dis j'ai passé 20 ans dans le sport et qu'est-ce que je vais faire après, quoi? Enfin, je sais pas, c'est toute ta vie et tu vis de ça, c'est l'adrénaline des compètes, voilà, c'est la routine, c'est un tout. Mais en même temps, tu dis, j'en peux plus, quoi. Ça fait 20 ans que je suis dans le sport, les douleurs physiques et tout, j'ai tellement mal partout que c'est vraiment très très dur les dernières années. Donc c'est un côté où tu dis, couche, je vais pouvoir faire autre chose. D'un autre côté, tu dis, mais je vais faire que ça. Et j'aime tellement ça que voilà, qu'est-ce que je vais faire après et comment je vais vivre, enfin, je sais pas. Et même financièrement, tu dis, voilà, là, je gagne de l'argent par rapport à ça, comment je vais faire après si j'ai plus de gère, enfin, c'est un tout. Voilà, après, on essaie de le préparer, quoi. On essaie de le préparer, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va manquer et je vais devoir compenser par autre chose, faire un autre sport ou trouver un intérêt dans autre chose, quoi.
Tu ressens aujourd'hui des frustrations, des éléments des manques peut-être dans ta carrière que tu aurais fait différemment?
Oui, dans un sens où j'aurais peut-être aimé prendre plus de plaisir quand j'étais jeune. Parce que c'est quelque chose qu'on m'a pas appris, de prendre du plaisir quand on fait du sport. Donc moi, au début, c'était vraiment voilà, pour gagner. Et je faisais beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures de souffrance pour arriver à mon objectif. Et au final, voilà, en grandissant, je me suis dit, comment je peux essayer de prendre du plaisir? Parce que je peux plus être dans ce négatif et toujours dans le travail d'acharnement, en fait. Et j'ai essayé de le trouver, mais comme on l'a pas appris, c'est très difficile. Et comme ma maman, elle connaît pas ça non plus, c'est vraiment difficile de le trouver. Et j'aurais aimé qu'on m'apprenne, en fait, à prendre du plaisir quand on fait du sport. Ou trouver ce juste milieu.
Ouais, bien sûr. Tu pourrais nous faire une description de ta journée type, je sais pas, dans ta semaine, par exemple, il ressemble à quoi le jeudi?
Le jeudi, c'est vrai que maintenant, par exemple, un jeudi, donc j'ai pas cours en ce moment, je fais que des cours par correspondance. Donc c'est à base d'entraînement, je me lève vers 9h, je vais m'entraîner vers, 8h, je m'entraîne vers 9h, jusqu'à, allez, 11h30 midi. Je rentre chez moi manger et l'après-midi, c'est surtout de la préparation physique parce que je fais plus trop d'entraînements parce que je peux plus physiquement faire que de la spécifique GR. Donc, j'essaie de compenser en faisant du travail physique, de renforcement, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est surtout un travail de GR, 3 heures à peu près où je fais plus en qualité qu'en quantité. Alors qu'avant, je faisais 8 heures de GR par jour et c'est tout, quoi. Donc, je faisais que ça, beaucoup de répètes, mais là, je fais plus. Donc, je fais qu'en quantité. Et c'est de faire comme en compète des one-shot, c'est de faire direct mon passage réussi sans faute. Et l'après-midi, je fais voilà, récup et préparation physique.
Ok, donc une journée finalement quand même bien chargée. Et est-ce que tu penses qu'il faudra que tu déconstruises, je sais pas, ton mental ou ton rythme corporel le jour où tu arrêtes le sport, tu vois, à se réhabituer à faire autre chose que ces 8 heures de sport dans la journée, tu vois?
C'est sûr, déjà, c'est sûr qu'il faut que je continue une activité physique. Mon préparateur physique, il me le dit, si j'arrête, je vais avoir encore plus mal partout, ça c'est sûr. Donc, faut obligatoirement que je me fixe des horaires pour faire du sport, quoi, pour renforcer les muscles. Et après, déjà, j'aurai le journalisme, mes études, qui va me prendre pas mal le temps dans la journée. Donc, ça c'est bien, ça va m'occuper. Et puis, le soir, c'est que je vais un peu entraîner dans un club où j'entraîne maintenant. Donc je pense que comme ça, sur le papier, ça va être pas mal, ça va m'occuper mes journées. Après, à voir si ça va vraiment me plaire et si ça va être satisfaisant pour moi, quoi. Si j'ai besoin d'en faire autre chose. Je pense qu'il faut surtout que je fasse des activités qui me plaisent. Je sais pas, j'aimerais prendre des cours de danse, de hip-hop, des trucs comme ça. Et donc voilà, si je fais ça, ça va être pas mal. Faut vraiment trouver des trucs qui me plaisent.
Et qui éventuellement font une compensation finalement sportive, peut-être à un moins haut niveau de ce que tu fais maintenant. Ouais.
C'est clair.
Tu passes un peu de temps avec les médias dans la semaine, comment ça se passe? Est-ce que tu fais des interviews un peu comme ceci, ou est-ce que tu fais, je sais pas, tu as du temps en fait que tu vas consacrer finalement de ta semaine à une exposition finalement médiatique?
Ça dépend. C'est vrai que pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de demandes et c'est vrai que ça m'a assez surpris parce qu'il y a pas mal de médias qui m'ont demandé des interviews ou même des podcasts et donc voilà, ça c'est vraiment cool pour parler de ma carrière, tout ça. Après, c'est vrai que le reste du temps, c'est ça qui est un peu aberrant, c'est que voilà, ça m'est arrivé pendant le confinement et je suis sûre que quand je vais reprendre la gère, il n'y aura plus rien, quoi. Donc c'est assez bizarre, c'est assez frustrant aussi. Parce que voilà, après je pense que les gens ils avaient plus de temps pour voir d'autres sports, tout ça, mais c'est ce qui montre que la GR n'est pas médiatisée du tout. C'est que en temps normal, quand tout fonctionne bien, personne s'intéresse à la GR, quoi. Donc ça c'est un peu frustrant, mais bon, je suis déjà contente que pendant le confinement on s'intéresse à ce que je fais.
et alors du coup, si tu passes un peu de temps d'habitude, pas beaucoup, et là depuis quelques temps un peu plus avec le confinement, toi qui es quand même fan de ce sport là, si tu avais une semaine type pour reprendre un peu ce qu'on se disait, tu te débarrasserais de quoi? C'est quoi l'élément principal? Est-ce que c'est cette partie médiatique justement en ce moment qui est too much, ou au contraire, comme c'est bien, tu veux la garder, mais du coup dans une semaine normale, qu'est-ce qui serait le poids lourd, tu vois, que tu voudrais laisser de côté?
Franchement, non, les médias, ça me dérange pas du tout, et c'est quelque chose toute ma vie où j'ai pris du plaisir à répondre aux questions. Franchement, ça me pose pas du tout de soucis. Et au contraire, raconter mon histoire, peut-être aider certaines personnes qui, je sais pas, traversent le même parcours que moi, c'est top. Enfin, moi, et serait-ce que même pendant les compètes, tu sais qu'il y a des gymnastes, quand tu signes des autographes, elles font la tête. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça. Et j'essaie de pas prendre la grosse tête, quoi. Je trouve ça horrible. Donc voilà. Après, c'est vrai que franchement, je changerais pas grand-chose, à part c'est vrai que voilà, faire moins d'entraînement, c'est difficile parce que je perds mon niveau, et ça je m'en suis rendu compte. C'est vrai que pendant le confinement, là, j'ai pas fait autant de sport que d'habitude en GR, et c'est vrai que j'ai perdu mon niveau, donc va falloir que je rattrape tout ça. Donc voilà, après j'ai réussi quand même à garder, genre, je sais pas, une force musculaire, que quand je fais là par exemple, j'ai repris avec le préparateur physique, je suis pas à la rue, quoi. Donc ça c'est cool. Plus de cardio. Voilà, ce que j'aimerais changer, c'est courir. Courir, parce que je peux pas courir, j'ai mal aux pieds. Donc ça, c'est un truc qui manque beaucoup, beaucoup. Je suis obligée de faire du vélo et je déteste ça. Après, voilà, je fais des cours en ligne avec des gymnastes. Ça c'est trop bien. Donc voilà, c'est surtout courir, je pense. Parce que le reste, tout va bien.
Ça te manque. Ok.
Ouais.
Est-ce que tu penses pas que dans les routines que tu fais, du coup, sur ton... On dit une routine, hein, c'est ça? On dit une routine?
Ouais. Un enchaînement.
Okay. Dans les enchaînements que tu fais, est-ce que tu ne penses pas que parfois les figures, c'est quand même un peu trop, toi, c'est un peu poussé, ça peut même être un peu dangereux, et donc on a tendance à pousser le corps humain jusque dans ses retranchements?
Si. Je suis tout à fait d'accord, dans le sens où, en fait, il faut savoir que quand j'ai fait les Jeux de Rio, on a un code de pointage qui définit voilà les points, tout ça. Donc à Rio, on avait une note fermée, donc c'était de 10 ou 20, je sais plus, mais en gros tu devais faire ton enchaînement jusqu'à arriver à 10, tu pouvais plus monter au niveau des points. Donc tout le monde faisait à peu près la même chose, et c'était beaucoup plus de pas rythmé, donc c'est à dire que on faisait beaucoup plus de danse, moins d'acrobatie, ce qui permettait voilà de créer une relation musique mouvement déjà, qui était mieux pour les juges. Donc voilà. Et après Rio, ça a changé. Ils ont changé le code de pointage complètement, et maintenant c'est devenu du cirque. C'est-à-dire que la note est ouverte, tu dois faire un maximum de points, il n'y a plus de relation musique-mouvement, il n'y a rien. Et tu es obligé de faire que des figures, et en plus avec l'engin, et en plus avec le corps. Donc tu dois faire des trucs de dingue. Et moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à suivre ça, parce que ça a complètement chamboulé un peu mes entraînements et mes enchaînements. C'est-à-dire que j'ai dû faire 10 fois plus, et mon corps, il n'a pas supporté, quoi. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je me suis blessée. Donc voilà, après il y a des jeunes surtout maintenant qui encaissent mais elles vont le payer plus tard, et ça c'est vraiment dommage. Et malheureusement il y a une Roumaine qui s'est fait les croiser sur le tapis devant les juges. Enfin, tu dis, mais maintenant c'est devenu un peu n'importe quoi. Tu pousses le corps aux limites, même plus loin, mais ils se rendent pas compte que le corps humain, le corps, il prend cher, quoi. Donc c'est au détriment de la santé, et malheureusement c'est les gymnastes et nous qui le payons. C'est pas les juges qui sont derrière leur table, quoi. Et ça c'est vraiment malheureux. Donc j'espère que plus tard ils vont venir un code plus dansé et qu'ils vont pas évoluer encore plus loin sur ce code-là.
C'est ce que finalement, c'est-à-dire que tous les sports à haut niveau finalement, enfin, vont détériorer ton corps humain que tu vas ensuite traîner pendant 60 ans, finalement 70 ans, 80 ans en fonction des niveaux de compétition. Mais ça fait quand même beaucoup de temps à traîner des grosses blessures, potentiellement tu parlais des ligaments croisés et autres types de fractures qui sont effectivement des gros trucs, quoi. Donc c'est vrai que ça doit pas être simple.
C'est sûr. Mais le problème c'est que c'est en fait le problème dans la GR aussi, c'est que quand on s'entraîne, la plupart du temps, les entraîneurs, ils prennent pas soin du corps des gymnastes, en fait. C'est... Wow. Okay. Et du coup, ils prennent pas soin des corps des gymnastes. Et en fait, on pousse dans la chair aux limites du corps humain. Et les entraîneurs se rendent pas compte qu'après, les gymnastes, elles ont une vie après. Et que le corps, tu le traînes, voilà, comme tu disais, jusqu'à tard. Et après, si t'as des blessures très tard, et tu vis avec ça. Et on prend pas soin du corps, par exemple on lui dit de pas manger le soir, des fois c'est la culture qui veut ça du sport, faut pas manger le soir pour maigrir, faut pas boire d'eau, enfin c'est vraiment très très hardcore, et qui c'est pas bien pour le corps humain. Et malheureusement les gymnastes, pour arriver à l'objectif, elles pensent qu'il faut passer par ça pour arriver à l'objectif, alors qu'il y a différentes manières. C'est un petit peu plus long certes, mais les entraîneurs veulent que ça soit rapide, donc c'est un peu plus long. Mais malheureusement les gymnastes, elles perdent la santé. Si tu fais autrement, elles peuvent être plus en forme, et alors que tu peux faire autrement, quoi. Donc c'est dommage.
Est-ce que tu penses que tu as pris des mauvaises habitudes si on enlève le côté sport, est-ce que dans ta vie, avec du coup cette compétition, etc., que tu as pu faire depuis à haut niveau depuis 8 ans, est-ce que tu penses que tu as pris des mauvaises habitudes dont tu vas avoir du mal à te débarrasser après?
Alors, je pense que j'en avais pris, mais j'ai réussi à m'en débarrasser petit à petit parce que j'ai compris que c'était pas bien pour moi. Et notamment, par exemple, voilà, quand j'étais petite, pour te donner un exemple, quand j'avais 14 ans, on m'a dit, faut que tu perdes 3 kilos. Quand je suis rentrée, j'étais à un stage, je vais pas dire où, parce que voilà, j'ai pas envie de parler de ça, mais voilà, il y a une grande entraîneur qui m'a dit, faut que tu perdes 3-4 kilos, sinon tu rentres plus dans une salle. Sinon, tu rentres plus dans ma salle d'entraînement où elle dirigeait le truc. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu manger le soir, j'ai bu que de l'eau, j'ai perdu 3-4 kilos, je suis rentrée dans la salle et tout le monde était content. Alors que moi, pour ma santé, après, ça s'est dégradé par la suite. Et ça, malheureusement, ça arrive pour de nombreux gymnastes. Et ça, c'est vraiment malheureux. Et ça fait partie de notre sport. Il y a aussi le patinage. J'ai entendu un podcast de Gabriel Papadakis qui racontait un peu que c'était le même système. Et on nous apprend pas à bien manger pour perdre du poids. On nous apprend à pas manger pour perdre du poids. Donc, aller demander à un médecin si c'est bien, je pense pas qu'il va vous dire que oui. Et voilà, ne pas boire de l'eau pendant les entraînements parce qu'on n'a pas le droit de grossir. Et tout ça a fait que moi, bah, au bout d'un moment, je faisais le yo-yo. On me disait, mais pourquoi tu fais le yo-yo? Enfin, mange pas, tu arriveras à un point normal. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça va pas, quoi. Et ça devenait vraiment obsessionnel, le problème de la nourriture, tout ça. Donc, de là, j'ai commencé à consulter justement des psychologues, les préparatrices mentales aussi, qui m'ont aidé à m'en sortir de ça. Mais le problème, c'est que quand à côté, on a des entraîneurs qui disent « Non, faut faire comme ça pour arriver, imaginons, à un poids, faut être mince, tout ça. » Mais toi, tu sais qu'il faut faire autrement, on te met des bâtons dans les roues en disant « Non, ce que tu fais, c'est nul, quoi. Donc, faut que tu fasses comme moi, je veux. » Donc ça, c'était vraiment horrible à passer par ce chemin-là. Mais au final, je me suis imposée, notamment auprès de ma maman, qui pensait un peu comme ça, et j'ai dit non, moi je vais faire comme ça parce que pour ma santé, j'en peux plus. Et au final, j'ai réussi à sortir de ça, et maintenant je mange normalement avant les compètes et j'arrive au même poids qu'avant. Ça fait un an que je me pèse plus, alors que avant on pesait 2 fois par jour. Et voilà, et pendant un an l'année dernière, personne m'a dit t'es trop grosse, quoi. En gros, personne m'a dit t'es trop grosse, alors je me pèse plus et je mange équilibré et je fais pas ne pas manger ça. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment un système qui est vraiment horrible, et il y a de nombreuses filles qui arrivent dans des schémas où elles sont vraiment au fond du trou et personne les aide. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer plus tard dans la GR, mais toute seule je peux pas le faire et c'est vraiment très très dur. Donc au moins en parler, tu vois, je pense que c'est pas mal.
Et tu penses pas que justement il y a un manque peut-être de spécialistes nutritionnels dans ce milieu-là et que du coup toi qui veux être entraîneuse ou coach comme tu l'as dit que tu puisses avoir une part de ça aussi, tu vois, d'accompagner peut-être mentalement les personnes à ne pas être tu parlais de presque dépression, mais simplement de pouvoir prendre soin d'elles sans forcément utiliser des méthodes trop drastiques, quoi.
Alors oui, ça peut servir, sauf que moi je l'ai vécu sur moi. Quand j'avais tous ces problèmes, j'ai consulté 5 nutritionnistes, et le problème c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on nous dit voilà, faut avoir une alimentation équilibrée. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, mais en fait ça allait pas vite, en fait, parce que quand t'as une alimentation équilibrée, tu stabilises, donc ça va beaucoup plus lentement que quand tu manges pas le soir, donc ça va, tu perds 3 kilos direct. Et quand on te demande à côté, les entraîneurs demandent tu dois perdre 3 kilos plus vite, qu'on te met la pression, bah au bout d'un moment t'abandonnes ce schéma-là parce que bah ça convient pas et que pour atteindre tes objectifs t'as besoin que l'entraîneur soit à côté de toi, quoi. Et du coup c'est pas le problème d'avoir un nutritionniste, c'est le problème que les entraîneurs te t'inculquent quelque chose qui est pas vrai. Donc c'est plutôt les entraîneurs qui devraient avoir un nutritionniste, voilà, et qui devraient prendre conscience que pour avoir un poids équilibré, faut arrêter de pas manger le soir, faut manger équilibré, c'est tout.
Et ce poids équilibré, peut-être pour bien comprendre, tu penses, de fait, il est important. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin justement de réguler, de garder une courbe fixe ? Est-ce que c'est parce que les pirouettes sont plus faciles avec ce poids-là, ou est-ce que c'est parce que du coup t'as moins de risque de te faire de mal ?
Alors ça, d'ailleurs, j'en ai parlé avec le préparateur physique que j'ai appris avec lui à travailler lundi, et j'en ai parlé un peu avec lui, et c'est vrai que moi, pour moi, de ce qu'on me disait aussi, et ça je l'avais dans ma tête aussi, c'est que voilà, plus t'es léger, plus tu vas sauter haut, si tu es maigre, tu vas avoir plus d'amplitude, tout ça. Mais il faut savoir que dans la GR, la question de la morphologie, c'est primordial. Si t'as pas la morphologie sur le tapis, si t'es pas mince, t'auras jamais ta note. Et ça, c'est clair et net, c'est depuis la nuit des temps. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, tous les entraîneurs, c'est pour ça qu'ils nous demandent d'être mince, parce que le prototype, le schéma de la meilleure gymnaste qui est en Russie, vu que c'est les pays de l'Est qui dirigent, tu dois être mince en GR pour réussir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce schéma-là. Et en y réfléchissant un peu, c'est pour ça que j'ai parlé avec le préparateur physique. Il m'a dit, et c'est ce que j'ai vécu aussi, c'est que quand j'ai commencé à faire de la préparation physique, tu prends un peu de muscle, donc tu es un peu moins affine, tu es un peu moins fine, mais tu as plus de muscle, mais c'est ce qui va te permettre de sauter plus haut. Donc c'est pas forcément le fait d'être mince qui va te faire sauter plus haut, c'est le fait d'avoir plus de muscles, plus d'impulsion, et de travailler vraiment sur les impulsions des pieds, tout ça. Et donc voilà, ça a rien à voir, en fait, au final, quand j'y repense, quand je prends un peu de recul, c'est juste esthétiquement. On nous demande d'être mince esthétiquement, mais quand on nous dit, au final, quand j'y repense, voilà, si tu maigris, tu vas sauter plus haut, en fait, ça a rien à voir. C'est juste parce que tu te renforces tes muscles et tu auras plus une meilleure impulsion que tu vas sauter plus haut. C'est pas parce que t'es plus mince. Donc voilà, c'est juste une question de morphologie. Et en général, on nous demande d'avoir une morphologie type pour performer.
Et une taille peut-être aussi, est-ce que ça joue aussi, si c'est trop grand ou petit ?
Pas trop chez nous, maintenant on voit un peu tout, les meilleures gymnastes mondiales, elles font 1m58 je pense, elles sont vraiment toutes petites, alors qu'avant, à l'époque de Tokyo, tout ça, Tokyo qu'est-ce que je dis, à l'époque de Pékin, c'était vraiment des vraies femmes, je trouve qu'elles avaient plus le corps des femmes, elles étaient plus grandes, 1m70 minimum, mais vraiment toutes, hein. Il y en avait beaucoup qui étaient comme ça, et maintenant, on voit plus de petites. Moi, je fais 1m65, c'est à peu près la moyenne. Mais il y en a des plus petites, les meilleures mondiales, elles font même pas 1m60. Donc voilà.
Ok. Tiens, je sais pas si c'est forcément dans ce sport, mais est-ce que toi, tu as des idoles à titre personnel ? Est-ce que tu as des personnes qui vont t'inspirer ou que tu vas admirer en particulier ?
Si je prends mon sport, oui, il y avait une Ukrainienne que j'admire beaucoup et que j'admirais quand elle pratiquait encore. Elle a fait 3e aux Jeux de Rio. Et c'est une gymnaste, voilà, que j'ai suivie. Elle a fait 2 Olympiades. Et c'est vrai que je m'entraînais avec elle sur le tapis en compète. Et quand je la voyais, c'est vrai qu'elle m'inspirait beaucoup parce que, voilà, chaque geste qu'elle faisait, elle était à 100%. Elle était très calme. Elle était vraiment à 100% dans ce qu'elle faisait. Et c'est vrai que l'Ukraine, au niveau des notes, elle se faisait toujours descendre, c'est politiquement comme ça. Et au final, elle a réussi à avoir sa médaille de bronze, du coup, à Jeux de Rio. Et c'était vraiment quelque chose de dingue. Parce qu'elle a fait 4 enchaînements parfaits. Elle a fait un truc vraiment parfait. Et ça se voyait qu'elle travaillait vraiment beaucoup, beaucoup. Elle s'investissait énormément et elle mérite vraiment sa médaille.
Et dans la vie, si c'est pas forcément dans ce sport-là, il y a des gens qui vont t'inspirer ?
Pas forcément une personne en particulier. Après, c'est vrai, voilà, j'en parle souvent, c'est sûrement Teddy Riner parce que voilà, moi, à 25 ans, je suis une vieille dans la GR. Et lui, il a 30 ans et il est un petit peu un vieux dans le judo. Il a fait énormément de, je sais plus combien il a fait champion de Jeux Olympiques, mais voilà, ça inspire beaucoup et il arrive encore à avoir des médailles maintenant, quoi, alors qu'il a 30 ans. Et ça m'inspire beaucoup parce que moi, je galère un peu alors que j'ai 25 ans. Je me dis comment je fais? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux adapter pour avoir une performance alors que je galère avec mon corps, quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et c'est surtout quelqu'un de très ouvert. Donc c'est vraiment des personnes comme ça qui sont ouvertes, à qui tu peux poser des questions. Et voilà, je m'inspire beaucoup. Tu peux t'inspirer vraiment de beaucoup de personnes. Il y a des personnes à l'INSEP qui se blessent énormément. Marie-Amélie Le Fur, par exemple, j'ai lu son livre, c'est très inspirant. Enfin, ça n'a rien à voir avec une personne lambda. Donc voilà, toutes les personnes sont inspirantes et je lis beaucoup de biographies, d'autobiographies, voilà, pour m'inspirer de chaque parcours, quoi. Mais c'est ça qui m'aide beaucoup.
Qu'est-ce que, du coup, c'est quoi ton rêve aujourd'hui, si t'en as un?
Mon rêve? Ouais, j'en ai plusieurs. Le premier, on va dire que, sportivement parlant, faire les Jeux de Tokyo, ouais. Me qualifier pour une deuxième Olympiade, ça va être, pour vraiment bien finir sur une bonne note, c'est ce que tout le monde peut me souhaiter. Après, voilà, essayer d'être en bonne santé, c'est très important. Surtout quand on est athlète de haut niveau, on a mal partout, donc vraiment, essayer de pas avoir mal partout. Et autre chose, si je pouvais changer quelque chose dans la GR, j'aimerais beaucoup, en un claquement de doigts, si je pouvais changer certaines choses pour améliorer la vie de certaines gymnastes, quoi. Parce que si, comme moi, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Et je sais que certaines vivent un peu la même chose. Donc, essayer d'aider, je ne sais pas encore comment, ces gymnastes pour qu'elles vivent mieux leur carrière, quoi.
C'est hyper ambitieux. Et tu penses que tu vas y arriver?
Je ne sais pas. Dans ma tête, c'est vraiment très dur. Parce que comme je le disais, toute seule, c'est impossible. Mais peut-être, pas pour l'instant, pas maintenant, mais j'ai quelques pistes, en fait, pour, je ne sais pas, créer une association, des trucs comme ça. Pour aider les sportifs, j'en sais rien, mais j'ai quelques pistes, mais toute seule, j'ai sûr que je vais pas y arriver. Donc, je sais pas encore comment, mais on va voir si au fil des années, j'y arriverai.
Finalement, il y a une part de ton sport qui est quand même très, très solo. Toi, tu fais quand même beaucoup de choses toute seule. Est-ce que t'as pas un peu ce sentiment qu'un jour tu veux essayer des défis secrets un peu plus en groupe, tu vois, par exemple?
C'est vrai que nous, on a déjà en gymnastique rythmique, on a l'individuel et l'ensemble. Donc en ensemble, elles sont 5 filles à fois en même temps. Moi, j'ai toujours fait de l'indi, j'ai jamais cherché à faire l'ensemble, donc ça m'a toujours plu plutôt que l'ensemble, mais j'avais fait des résultats et on peut pas faire les deux. Donc je suis toujours restée en indi. Après, c'est vrai que comme toute ma vie j'étais en indi, j'ai peur d'être un peu je sais pas, je me vois pas faire un truc de groupe en fait. Déjà, je sais pas, si je rate, je vais être trop culpabilisée pour les autres, c'est horrible. Enfin, quand je rate, tout le monde perd, en fait, si moi je rate. Donc ça, c'est quelque chose d'horrible. Après, ouais, pour le plaisir, pourquoi pas. Mais je préfère toujours les sports individuels. Après, je vais essayer, parce que comme j'ai passé 20 ans de ma carrière dans la GR, j'ai pas pu essayer beaucoup de choses. Mais oui, toujours essayer, ça serait bien, ouais. Et je compte essayer beaucoup de sports.
J'allais dire justement, c'est quoi selon toi les sports que tu veux essayer et dans quel ordre?
Comme je disais, danser, ça c'est pas trop du sport, mais c'est une petite passion que j'ai. Donc vraiment, voilà, faire des cours de danse. Après, j'aime bien le bad. J'ai essayé le tennis, mais je suis pas trop forte dedans, donc c'est un peu dur. Plus le bad, du handball peut-être, basket j'aime pas trop. L'équitation aussi. J'aime bien l'équitation, j'adore les animaux et j'en ai fait quand j'étais très très jeune et là j'aimerais bien en faire un petit peu.
Ok. Ah ouais, ça fait déjà pas mal de choses. Ouais.
Ouais.
Bon, du coup, juste pour bien comprendre, tu comptes t'arrêter quand? Si t'es pris aux Olympiades, tu fais l'Olympiade. Et sinon, tu t'arrêtes avant, comment ça se passe?
Oui, c'est ça, en fait, il y a les tournois qualificatifs, dans les Coupes du Monde qualificatives qui vont, je sais pas être quand encore. Et donc, on a 3 places sur les Coupes du Monde. Et après, il y a encore une place aux Europes. Donc, si après les Europes, je suis pas prise, je vais arrêter. Et si je suis prise pour soit la Coupe du Monde ou Europe, bah, je continue jusqu'au jeu, tout simplement.
Ok. Ok, ok.
Voilà.
Xenia, juste pour bien saisir, du coup, selon toi, c'est quoi les prochaines étapes dans ton parcours et comment on fait pour te suivre du coup?
Ah bah écoute, pour l'instant je sais pas quelles sont les prochaines étapes, on a vraiment aucune incertitude de ce qu'on va faire au niveau des compètes. Donc là on reprend les entraînements, le 8 je reprends à l'INSEP, là je suis en préparation physique à Bourges et donc voilà, le 8 je retourne à l'INSEP pour reprendre tout doucement. Normalement on a les championnats d'Europe en septembre, mais avec les conditions maintenant on sait pas du tout si ça va se faire. Donc voilà, je pense que ça va débuter sûrement en janvier prochain ou en fin d'année, décembre, janvier prochain. Donc voilà, c'est surtout les entraînements pour le moment, pour reprendre vraiment tout ce qu'on a perdu depuis le confinement.
Okay. Et comment on te suit du coup? On va sur la page Facebook, t'as un compte autre part, comment ça se passe?
J'ai surtout Insta, je suis beaucoup plus sur Insta, okay. Donc Ksusha M, donc c'est Yem Stefayeva, et voilà, Facebook aussi. Et j'ai mon blog aussi qui s'appelle iStretch, qui s'appelle MCFA. J'ai créé ma chaîne YouTube où je donne pas mal de conseils pour s'étirer. Là, c'est plus axé sur les gymnastes. Après, il y a des trucs de renforcement aussi, des exercices de renfo. Donc, si vous êtes intéressé, ça s'appelle iStretch. Voilà.
Génial. Ouais, ça, c'est pratique, ça. Deux questions, du coup, Xenia, pour toi, pour bien comprendre. La première, c'est si t'avais donc quelqu'un devant toi qui a peut-être, je sais pas, 6 ans, 10 ans, je sais pas quel âge tu commences la gymnastique. Si t'avais quelqu'un devant toi qui a 6 ans ou qui a 10 ans, tu commences par quoi, selon toi? C'est quoi les conseils à lui donner?
Déjà, faut avoir les bases. Donc, si on commence la GR, faut déjà, avant de faire des diffs de malades, imaginons que les autres font, faut déjà avoir les bases. Donc voilà, travailler les assouplissements, faut être assez souple mais en même temps musclé, donc assouplissement, renforcement musculaire et voilà, surtout commencer à prendre du plaisir des tout petits. Faut faire vraiment ça si on aime ça, pas faire ça parce qu'on nous le demande, et on aura beaucoup plus de résultats si on travaille dans cette optique-là.
OK. Et c'est à l'occasion du coup de recroiser, dernière question, de Xenia qui a 8 ans, ou toi qui vient de débarquer en France, qui est en fait depuis 2 ans en France. Qu'est-ce que tu lui dis?
Ouf, je vais parler à ma maman en plus, je pense. Si je croise moi, je vais parler à ma maman pour lui dire de travailler autrement, parce que j'ai envie de lui dire qu'il y a d'autres manières de réussir, je pense. Tout en étant très investi dans ce qu'on fait, mais plus en prenant soin de sa santé. Donc voilà.
Ok, bon, superbe. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, Xenia. Je suis très content de t'avoir rencontré.
Avec plaisir.
Et puis du coup, on a hâte de voir la suite des résultats et on te souhaite vraiment toute la réussite pour participer à cette prochaine Olympiade qui du coup a lieu en 2021.
C'est ça, c'est gentil, merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.